de noir.
Suite et fin, suite et vin, fin de cette première émission de l'année. Excusez-moi, un petit chat dans la gorge. Voilà, et donc Jacques, tu vas commencer par, on va dire, un petit peu de légèreté et d'humour.
Voilà, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Je voulais commencer l'année par un sourire, voire quelques éclats de rire.
En tout cas, je témoigne, à la lecture, tu as beaucoup ri.
Voilà, et bien donc, on va parler de ce roman d'Andrea Camilleri qui s'appelle La chasse au trésor, qui est paru aux éditions Fleuve Noir et qui est traduit du sicilien, comme à son habitude, par Serge Quadrupani.
La précision est importante.
Donc voilà, c'est le Montalbano nouveau qui est arrivé avec la nouvelle année. Alors tout commence dans ce roman par la crise de folie de deux vieux bigots de Vigata. Vigata, c'est la ville dans laquelle toutes les enquêtes de Montalbano. Alors c'est un frère et une sœur, c'est des antiquaires en bondieuserie, si j'ose dire. Et ils sont vraiment assez âgés et un peu décatis. Et ben, un beau jour, ils se mettent à tirer sur la foule depuis leur balcon. Ils tirent dans la rue avec une vieille pétoire qui est plutôt assez ancienne, mais qui est encore très efficace. Et ils tirent même à un moment sur le fameux commissaire Montalbano, qui est grimpé à la grande échelle des pompiers, au péril de sa vie, et malgré un soudain vertige, pour tenter de les raisonner, voire de les arrêter.
Quand on monte à la grande échelle des pompiers, on a souvent le vertige.
Voilà, c'était des vieux gâteux, cubénis, mais pas complètement purs et innocents, surtout le monsieur, car au milieu des croix, des Vierges Marie de toute taille, de tout matériau, Montalbano trouve dans le lit du pépère une poupée gonflable, certes du siècle dernier.
Ça existait déjà ? Siècle dernier, tu veux dire 20e siècle ?
20e siècle,
ah,
bien
pardon,
oui.
Pardon, oui, oui, oh bah oui.
Mais dans un état...
J'ai pas vu le temps passer.
Et dans un état d'usure plutôt avancé. Un peu après, quelques chapitres plus tard, sa sœur jumelle, donc de la poupée gonflable, on en retrouve une dans une poubelle du quartier. Et voilà ce brave Salvo Montalbano, encombré de deux de ces objets qui vont lui causer bien du tracassin, comme aime à le dire Camilleri via la traduction de Quadrupani. Mais évidemment, la rigolade ne va pas durer longtemps, car comme le titre du roman que je disais tout à l'heure, La chasse au trésor, eh ben, le commissaire va être entraîné dans une chasse au trésor. Une chasse au trésor qui, de malsaine au début, va devenir plutôt macabre. Alors il reçoit des informations, des énigmes qu'il reçoit par courrier ou par porteur, des énigmes à base de poèmes, enfin de vers de Mirliton, qui vont le conduire jusqu'à un trésor, qui bien évidemment...
D'où le nom du titre ?
Voilà, qui bien évidemment n'en sera pas tout à fait de trésor. Heureusement, Camilleri ne perd pas son humour, ni sa façon de traiter Montalbano. Alors Montalbano, on le sait depuis quelques épisodes, il se sent de plus en plus vieux.
Tiens, tu sais combien en fait ? On est combien ? 20 ?
Oh bah, il a 57 ans, oui, il y en a eu...
Non, pardon, le nombre de...
Je ne les ai pas comptés. Je ne les ai pas comptés, ils sont tous indiqués en deuxième page.
Je sais bien que quand on aime, on ne compte pas, mais il doit bien y avoir une vingtaine de...
Je vous le dirai après la musique tout à l'heure. Donc voilà, Montalbano, il se sent de plus en plus vieux, 57 ans, pourtant ce n'est pas super vieux. Hein. Alors on aura quelques francs fous rires, quand Salvo tente d'expliquer la présence des deux poupées gonflables sous son lit à sa belle amie Ingrid. Ingrid, elle est... c'est pas Livia, c'est juste une amie assez proche.
Va quand même sous le lit de Salvo Montalbano.
Non, c'est les poupées gonflables qui sont sous le lit.
Oui, mais faut qu'elle les voie, faut qu'elle aille dessous quand même.
Oui, mais elle est venue lui rendre visite, parce qu'elle lui rend visite souvent quand sa fiancée génoise n'est pas là. Elle est là depuis le premier roman, Ingrid, quand même. Hein, oui, c'est elle qui était en cause dans le premier roman. Alors, et puis il y a aussi, évidemment, les relations avec le questeur. Alors là, elles ne sont que téléphoniques, mais il y a des scènes, il y a des dialogues entre le questeur et Montalbano, qui ne veut absolument pas lui obéir, qui sont irrésistibles. Tout comme, évidemment, les dialogues avec Cattarella.
Pour
ceux qui ne connaissent pas les enquêtes de Montalbano, Cattarella, c'est l'homme à tout faire du commissariat. Ils l'ont mis un peu partout parce que, pour essayer d'être un endroit où il gênera le moins, finalement, ils l'ont mis à répondre au téléphone, comme il dit lui-même.
Ouais, en personne, au téléphone.
Au téléphone, voilà. Et malheureusement, c'est pas toujours bien. La seule chose qu'il a, c'est qu'il a quand même un certain génie pour l'informatique qui va bien aider d'ailleurs à un petit moment dans cette enquête.
Oui, c'est pas avec les poupées gonflables.
Et puis, on a le droit aussi. Au fameux soliloque à deux voix. Alors évidemment, soliloque à deux voix, c'est pas terrible. Hein. Mais c'est pas des dialogues non plus.
C'est pas pire que monologue à deux voix.
Voilà, c'est des soliloques à deux voix entre Montalbano Uno et Montalbano Due. parce qu'en fait, il se parle à lui-même, donc chacun prend, essaye de prendre une position et de convaincre l'autre. Et le Montalbano lui-même, ben, il va toujours à peu près entre les deux.
Pour faire de l'humour de très, très, très bas étage, c'est normal qu'il se dédouble, puisqu'il y a deux poupées gonflables.
Exactement. Et elles sont... Eh, non, elles finissent dans le placard. Et puis, il y a bien sûr, dans un, il n'y aurait pas de d'enquête de Montalbano sans de la bouffe. Et pourtant, là, il subit un truc qui est assez difficile pour lui, une défection d'Adelina. Adelina, c'est sa... c'est la Lana qui...
Sa majeure... Non,
c'est celle qui vient s'occuper de sa maison, en gros, et elle lui laisse toujours des plats pour le soir, dans le frigo et dans le four.
Qui font saliver les lecteurs à chaque épisode.
Voilà. Alors, il fait toujours honneur, avec force et détermination, aux plats et aux vins siciliens. Et même à un certain breuvage écossais, que l'on se doit de consommer avec modération, ce que lui ne fait absolument pas, bien évidemment.
Mais c'est dans les livres.
Pour ce qui est du manger, alors quand il mange trop, il a une nouvelle justification. Manger pour moi est une sorte d'accélérateur des fonctions de ma coucourde. Voilà tout. Et donc, aucune honte et les remords, ça suffit. Quant à Camilleri, il n'a pas perdu ni sa verve, ni sa capacité et son envie de se rebeller contre les cons. Alors ici, c'est par exemple les architectes qui pourrissent l'environnement et la vie des gens pour qui ils bâtissent ces affreuses barres d'immeubles. Et il y en a bien d'autres qui s'en prennent, au détour d'une phrase bien sentie, s'en prennent chacun pour leur grade. Donc c'est un, comme vous vous en doutez, un bon cru du papé de Vigata à s'offrir ou à offrir. On est dans la période des vœux, donc on peut se faire des petits...
On peut se faire encore des cadeaux.
Des cadeaux, exactement.
Ça va, le Père Noël, il n'y a pas de quoi
parler.
Et
si vous découvrez ce soir Andrea Camilleri, eh ben, rassurez-vous, il y en a quelques autres, donc je vous dirai tout à l'heure combien exactement, et ils sont quasiment tous réédités en poche dans la collection Pocket, donc du premier, La forme de l'eau, jusqu'à celui-là, La chasse au trésor, qui est encore en grand format au fleuve noir.
Bien sûr, puisqu'il vient de sortir. À propos, tu parlais de l'âge du commissaire Montalbano, moi, Camilleri, il doit approcher, il est nonagénaire.
Encore
une belle verdeur donc, dans l'écriture.
Ah oui, dans l'écriture de temps en temps, dans les pics qu'il peut envoyer à certaines personnes.
Alors, pour cette première émission de l'année, que nous as-tu trouvé comme musique ?
Eh bien, une musique, c'est un chanteur de blues texan de San Antonio qui s'appelle Neil Black. Et vous l'avez peut-être vu parce qu'il est passé il n'y a pas longtemps dans la région.
C'est bien, ça fait quelques références au polar, Black, voilà. San Antonio,
exactement.
Bref.
Et le titre que j'ai choisi fait un petit peu référence à une boisson dont je parlais tout à l'heure, parce que ça s'appelle « Jesus and Johnny Walker ». Et en gros, le texte dit ben, « Certains ont besoin de l'un, certains ont besoin de l'autre. Nous, ce soir, je pense qu'on aura besoin de l'autre. » Neil Black.
voilà, c'était donc...
Neil Black and the Healers.
Et voilà, comme nous ne reculons devant aucun sacrifice, dans les cinq dernières, qui nous restent, eh bien, performance, nous n'allons pas parler d'un livre, mais de 9 livres.
Et je vais d'abord préciser, comme je l'avais dit tout à l'heure, que cette enquête est la 19e de Montalbano, donc je pense qu'en 2016, on fera la 20e.
Que de choses à fêter. Voilà, donc les Point Seuil, les éditions du Seuil, dans leur collection de poche, donc Point Seuil, évidemment, Seuil policier, ont décidé de faire une très jolie rentrée littéraire en ce début 2015. C'est de sortir 9 romans qui ont marqué l'histoire du roman noir et du polar. Et c'est une collection relookée pour l'occasion qui s'appelle Polar.culte ou Point Polar Culte ou Culte.polar. Enfin bon, non, là j'exagère. Voilà, donc 9 romans, des couvertures un peu brillantes qui attirent l'œil sur la devanture de votre librairie.
Un peu comme les peintures métallisées des...
Voilà, vous n'allez pas pouvoir les louper.
Des belles voitures.
Donc, on va commencer, je vais laisser Jacques parler de celui qui parle le plus d'espionnage, par 3 gros pavés. Alors ceux-là, dès on parle de ceux qui ont marqué, à lire absolument.
Absolument, tout à fait. Donc le premier, c'est Robert Little. Le roman s'appelle « La Compagnie ». Ça vaut 10 euros et il raconte en gros une histoire de la CIA en 1150 pages. Ça commence en juin 1950, ça finit à peu près en août 1998. Il y a une foultitude de personnages, d'événements qui rejoignent donc des événements qu'on a bien sûr vécu, enfin peut-être pas en 1950, mais entre-temps. Et voilà, et la CIA, c'est quand même, mine de rien, c'est quand même assez important, malgré tout, même dans notre vie à nous.
On va passer maintenant des États-Unis à l'Italie avec un magnifique roman noir. On était dans le roman d'espionnage avec Robert Little, là vraiment du roman noir. C'était son premier roman, maintenant il a écrit d'autres choses. Giancarlo Di Cataldo, laisse dire le titre, pardon.
Romanzo Criminale.
Donc là aussi, gros pavé, presque 800 pages, c'est ça?
Tout à fait.
Et encore, sur une très longue période, enfin très longue.
Ouais, une génération, une bonne vingtaine d'années, oui.
Donc, une bande.
Il y a plusieurs personnages, mais les principaux, ceux qui ressortent, il y a le Libanais, le Dandy, le Buffle, il y a la femme qui n'est pas vraiment fatale encore, qui est Patrizia, et il y a aussi un flic intègre,
c'est
qui reviendra dans un autre roman, d'ailleurs.
T'es obligé de préciser ça.
Nicolas, pardon, alors c'est pas facile à prononcer.
Chaliofa, voilà. C'est ça, à peu près. Vous avez peut-être aussi vu le film, c'est une des bonnes adaptations, franchement, c'est pas du tout honteux, l'adaptation qui a été tirée cinématographique. Si vous voulez savoir beaucoup de choses, mais de manière excellemment bien romancée, des années très noires en Italie, il faut lire absolument ce livre. Et Giancarlo Di Cataldo est un homme bien renseigné, puisque... On va préciser qu'il est juge à Rome et que maintenant il occupe même des fonctions plus importantes. Tout ce qui est dit dans ce livre ne s'éloigne pas trop de la vérité. Voilà, on retourne aux États-Unis.
Et on retourne avec la CIA, avec un must absolu des romans noirs.
C'est un chef-d'œuvre des plus grands romans noirs.
Roman de Don Winslow qui s'appelle La Griffe du Chien. Il fait lui aussi, c'est 825 pages. Et on retourne avec la CIA. Et là, c'est la lutte de la CIA contre les trafics de drogue et les cartels au Mexique. Alors, il y a de tout, des agents infiltrés, de la trahison, de la corruption, des deux côtés de la frontière, parce que la corruption du côté Mexique, elle est assez fameuse, mais du côté états-unien, elle est pas mal non plus. Et puis, il y a aussi le double, à ce niveau-là, c'est même le triple jeu des agences secrètes, DEA, CIA, NSA, enfin, tout cela qui, à la fois, finance les cartels pour lutter contre d'autres et lutte contre ces mêmes cartels qui financent. Enfin, c'est assez compliqué, mais Don Winslow nous raconte ça magnifiquement et je peux vous assurer que c'est 825 toutes petites pages, en fait, parce que quand on a commencé, on est dedans.
Et pour expliquer cette histoire-là, c'est certainement un des meilleurs romans qu'on puisse lire.
Et comme il le dit lui-même quand on l'interview, il est largement en dessous de la vérité dans ce roman.
Voilà, alors j'étais un peu prétentieuse, j'ai l'impression, parce que j'ai dit qu'on allait pouvoir parler de 9 romans en 5 minutes. Je vois que le temps passe, donc on va pas pouvoir développer comme on l'a fait en quelques lignes sur les 3 premiers. Nécropolis, là aussi, roman culte, roman, je dirais presque fondateur, qui date, il a plus de 40 ans, hein, c'est 75-76 ce roman, où on va pénétrer dans les méandres, c'était une des premières fois, d'un médecin légiste, et dans les âmes, dans quelques âmes bien noires. Et puis, des classiques là, qui sont plus 21e siècle. On peut partir avec Ingrid Hasson en Islande, avec le premier, La femme en vert, excellent, La cinquième femme de Mankell. On peut partir en Afrique du Sud, Les soldats de l'ombre, Deon Meyer. Et puis, deux polars moins connus, un serial killer, Steve Mosby, pardon, dont j'avoue que j'ai oublié le titre, et puis Pimp d'Iceberg Slim.
Remarquable écriture, autobiographie d'un macro de Pimp, Chicago.
C'est macro. Voilà, le technicien nous engueule parce que c'est la fin de l'émission, donc on vous dit au revoir, chacun dans son coin, avec un bon bouquin.